Études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus.
Alors, bien aimés auditeurs de cette fréquence, vous qui nous recevez ici à Lomé et ailleurs dans le monde entier, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue à l'heure de cette émission Études sur Cantique. En ce jour, nous allons étudier un cantique en anglais. Il provient d'une dame, c'est une dame qui l'a chanté, mais malheureusement, cette dame n'est plus de ce monde. Je vous laisse écouter le cantique en anglais qui est intitulé « The Cry ». Et après, on vous donnera le nom de la chanteuse et on parlera d'elle et on va essayer de comprendre le message qui est véhiculé par le chant. Je vous laisse avec la chanson « The Cry » en ce moment même. Vous venez d'écouter le chant qui va retenir notre attention en ce jour dans cette émission. Et la dame que vous venez d'écouter se nomme Osinachi Nwachukwu. Ben, on va essayer de la connaître. Qui était-elle? On va essayer de la connaître avec l'autre Laurent qui est avec nous de l'autre côté du studio. L'autre Laurent, bonjour.
Bonjour, Olivier.
Voilà, Osinachi Nwachukwu, c'est ça, hein? C'est bien ça, oui. C'est une Nigériane, je crois.
Oui.
Et malheureusement, elle a perdu la vie de façon tragique le 8 avril passé. Je ne sais pas si on a d'autres informations sur elle avant d'entamer la chanson.
Et oui, bien entendu.
Oui, on y va.
C'est une artiste gospel nigériane, célèbre, là aussi, auteure, compositrice, productrice de musique de louange chrétienne. Elle est une servante de Dieu et elle était membre active du groupe musical de l'église Dunamis Church International Gospel Center. Elle a, donc, l'église de Paul Inenche, elle a été révélée au monde grâce à la chanson à succès « Ekou Aimé » qu'elle a chantée avec Prosper Oshimana en 2017. Donc là, maintenant, Osinachi Nwachukwu est née le 12 novembre 1979 à Iziochi, un village dans l'état d'Abia, au Nigeria, bien entendu. Après ses études universitaires et son service national, elle s'est lancée dans la carrière musicale jusqu'à son décès le 8 avril dernier dans un hôpital privé à Abuja, dans la capitale fédérale du Nigeria, des suites d'un cancer de la gorge, aggravé par un coup de pied à la poitrine que son mari Peter Nwachukwu lui a donné. Elle était donc âgée de 42 ans, de son mariage avec Peter. Elle a eu 4 enfants, donc 3 garçons et une fille. J'ai fait un tour sur sa page Facebook et j'ai pu lire ceci, « May God continue to bless us all. » As we labor in his vineyard, we are only tools in his hand, and to him alone be all the glory. I appreciate you all for your wonderful comment. However, for the record, I have not put out any account number or asked for any financial assistance in this channel. Please be aware. The Lord bless and make his face continually shine on you. Thank you all. I love you, Jesus. Donc là, dit que Dieu continue de nous bénir dans notre œuvre dans sa vigne. Nous ne sommes que des instruments de ses mains et c'est à Dieu seul que revient toute la gloire. Je vous remercie tous pour vos merveilleux commentaires. Cependant, veuillez noter que je n'ai mis ni un numéro de téléphone ni demandé une quelconque assistance financière sur cette page. Que le Seigneur vous bénisse et que sa face brille continuellement sur vous. Merci à tous. Je t'aime, Jésus. Voilà donc c'est ce qu'elle a dit.
C'est le dernier commentaire sur sa face Facebook ou bien c'est carrément...
Oui, c'est sur la page Facebook. Tu sais que souvent quand les gens ont leur page, quand ils ont un ministère, tout naturellement ils mettent à disposition un numéro de compte et tout le reste pour... une éventuelle aide ou assistance financière.
Mais lui, elle n'a pas fait ça. Elle n'est pas dans cette optique-là.
Oui, oui. Et puis bon, maintenant, quand on l'appelle, j'ai cherché son nom de famille à l'origine, mais je n'ai pas encore trouvé. Mais le nom Nwachukwu, c'est le nom de son mari. Vous savez que dans le système anglophone, dès que vous vous mariez, vous prenez le nom de votre époux, d'accord? Donc, son mari qui est, bon, un supposé serviteur de Dieu, pasteur, supposé, je vais expliquer, il sert dans l'église de Paul Enenche.
Okay.
Oui, il est proche de lui. J'ai dit supposé parce que, vous voyez, un serviteur de Dieu est démis de ses fonctions devant Dieu. Il perd l'onction, il perd la gloire de Dieu, il perd la présence de Dieu. Dès qu'il frappe son épouse, c'est un pécheur. Quand quelqu'un pose cet acte-là, c'est un pécheur. Parce que Christ ne frappe pas l'église. Parce que Paul a déjà établi le parallèle entre le mariage chrétien et le mariage que Christ aura avec l'église. D'accord? Donc, ce monsieur, c'est un bourreau pour sa femme. J'ai écouté le témoignage de sa belle-mère, de la sœur jumelle de
Madame,
la défunte.
De
la ministre des Affaires féminines au Nigeria, s'est rendu auprès de la famille, a posé des questions aux enfants. J'ai subi ça aussi. J'ai écouté l'intervention de du pasteur de l'église et d'une dame dans le quartier, des amis d'enfance. J'ai fait le recoupement. Ce monsieur battait continuellement la femme.
Il était violent.
Oui, oui. Et par moments, il demandait même aux enfants de se joindre à lui.
Pour battre la femme.
Oui, bien sûr. Donc, quand
est-ce que les enfants se joignaient à lui?
Ah, mec, tu sais, il terrorisait les enfants, leur interdisant d'en parler à qui que ce soit. Mmh. Donc, les enfants ne pouvaient pas parler au pasteur de ce qui se passait. Vous savez, les enfants parlent naturellement.
Et pourtant, il était pasteur.
Ah, bien sûr, c'est pour cela que j'ai dit, quand un pasteur bat sa femme.
Il perd l'onction.
Oui, mais de toute façon, parce que c'est la boxe. La boxe n'est pas le fruit de l'esprit. Mmh. La violence physique n'est pas le fruit de l'esprit. De la même façon, désolé, pour une femme chrétienne, je ne parle pas de celles qui ne connaissent pas Dieu, une femme chrétienne qui insulte son mari, elle aussi, là, c'est une pécheresse. Parce que l'Église n'insulte pas Christ. Nous sommes toujours dans la dynamique de ce que le mariage chrétien est par rapport au mariage de Christ
avec l'Église.
Donc, il n'y a nulle part dans la Bible où il est dit aux femmes d'insulter leur mari. Les gens qui ne connaissent pas Christ le font, mais les chrétiens ne peuvent pas le faire. Donc, malheureusement, celle-là, elle a perdu la vie. Et on ne doit pas vivre le martyr dans son foyer. En protégeant la personne qui vous met dans cette situation. Quand il venait vous prendre, ou bien quand vous l'avez prise, il n'y avait pas tout ça là. Mais quand ça commence par montrer, il faut demander de l'aide. C'est pour cela qu'on a des parrains, on a des marraines, c'est ça non?
Oui.
On a la famille des deux côtés, on a l'église, on a l'État. Il faut demander de l'aide et ne pas souffrir le martyr en secret, en protégeant l'autre en disant oui, si j'en parle maintenant, les gens seront au courant. Mais c'est parce que le péché est dissimulé que la personne devient très raffinée dans le mal. Si elle avait très tôt dit cela à l'église, le monsieur saura que tout le monde est au courant, donc il va se garder. Maintenant, on a perdu cette femme-là, les quatre enfants qui va s'en occuper. Vous voyez un peu, le monsieur actuellement est en prison. Donc, quand on analyse tout ça, il fallait simplement exposer le bourreau, la personne qui fait ça-là. On ne frappe pas une femme. Ne doit pas frapper une femme.
Oui,
et les femmes aussi, on ne doit pas insulter son mari. Il faut que les choses soient équilibrées. Et ce faisant, on pourra aider nos enfants à pouvoir grandir de manière harmonieuse. Parce que ce que les enfants voient dans l'enfance, c'est ce qu'ils vont
répliquer
faire plus tard dans la vie. Donc, c'est important de le souligner.
D'accord. L'autre, Laurent, j'avais appris que le monsieur était en garde à vue. Est maintenant déféré en prison, là.
Je crois bien. Parce que, entre-temps, certains avaient dit oui, il fallait le relâcher. D'autres ont dit non, il était en liberté. Il pouvait pas sortir comme ça.
Parce qu'il a commis un crime.
Oui, bien sûr, c'est un homicide, non? C'est toi, le juriste, c'est un homicide involontaire ou je ne sais quoi. Du point de vue médical, la dame était souffrante déjà. Cancer de la gorge. Et puis quand vous l'écoutez chanter, vous savez, quand elle chante, c'est avec toute l'énergie, Et là, on peut comprendre. Mais donner un coup de pied à la poitrine d'une femme, j'imagine un peu ce qu'il a fait autrefois et jusqu'au jour où ça. Quand tu écoutes les témoignages, le monsieur, il est terrible. Il est vraiment terrible. C'est un meurtrier. Là, ce genre d'individu ne doit pas le laisser en circulation. Il doit aller rester quelque part.
On va revenir à la chanson des Cry. C'est quoi en français? C'est le cri ou bien c'est les pleurs?
En réalité, c'est les pleurs, mais les deux combinés. Hein, parce que, tu sais, il y a une manière de pleurer. On peut pleurer en silence, on peut couler juste des larmes. Mais on peut pleurer lorsque la douleur est intense. On vocifère, c'est-à-dire qu'on laisse échapper toute la douleur intérieure. Et là, quand on va progresser, on va comprendre pourquoi l'auteur met l'accent sur ça. Parce que quand l'enlèvement va avoir lieu...
Là, c'est relatif à l'enlèvement.
Bien sûr. Okay. Tout ce qu'elle est en train de dire là, c'est relatif à l'enlèvement.
J'ai pensé que c'était son état d'âme qui est transféré.
Bon, quand on analyse aussi, c'était les cris d'une âme en perdition. C'est-à-dire qu'elle se cherchait. Et quand, psychologiquement, c'est que, quand elle fait le ministère, quand elle pleure, tout ça, elle est malheureuse.
Elle est malheureuse.
Tu vois un peu? Oui.
Mais on la comprenait pas.
On la comprenait pas. Mais pendant, de l'autre côté, ce qu'elle disait était en rapport avec les Saintes Écritures.
On va juste marquer une pause de quelques minutes en réécoutant le chant parce que le chant est un peu long, l'autre Laurent, pour qu'on puisse entamer réellement le commentaire du chant des Cry de Osinachi Nwachukwu.
The cry you will cry when the saints have gone.
Je disais tantôt, on va maintenant entamer le chant, on va essayer de voir et de comprendre le message véhiculé par la dame dans ce chant-là. Et l'autre, Laurent, moi je l'ai subdivisé, cette chanson en 6 parties.
Ok.
Hein, je l'ai subdivisé de par la lecture. Et elle entame le chant avec, elle attaque. Je vais dire ça comme ça, hein. Elle attaque en disant, je crois le français, elle dit ceci, le cri que tu pousseras quand les saints seront enlevés, pousse-le maintenant pendant que les saints sont encore là. Le cri que tu pousseras quand tu apprendras que les saints sont partis, pousse-le maintenant pendant que les saints sont encore là. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de miséricorde. L'attaque est difficile. Le début est difficile. Elle a été directe dans son message.
Ah oui, bien sûr.
Pourquoi?
Oh, mais ces genres de chansons sont en droite ligne avec le message de l'Évangile, qui appelle le pécheur à la repentance, qui appelle le rétrograde à revenir à Dieu, qui appelle le saint à demeurer dans la voie de Dieu, sur le chemin resserré. Et donc ici, quand elle dit le cri que tu pousseras quand les saints seront enlevés, c'est que lorsque l'enlèvement aura lieu, ceux qui seront laissés derrière, chacun pour sa part, comprendra la terreur. La terreur va les saisir d'abord, et ensuite, ils pourront envisager ce que l'Antichrist fera, surtout pour ceux qui ont été à l'école de dimanche ou bien à l'église pendant l'étude biblique. On leur a enseigné sur l'enlèvement de l'église, la grande tribulation, ce que l'Antichrist fera avec le faux prophète, bien entendu, le jugement de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Donc quand l'enlèvement aura lieu, ceux qui seront laissés derrière sauront. Les pécheurs, ceux qui ne sont pas convertis, pour eux, ce sera un événement. Eux, ils vont percevoir l'événement d'un point de vue des accidents qui vont avoir lieu, des avions qui vont faire crash, des voitures, ainsi de suite. Mais chacun saura que quelque chose vient de se passer. Mais pour ceux qui seront laissés derrière, là, c'est en ce moment que les gens, c'est les pleurs. Jésus a l'habitude de dire qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, ces gens-là vont pleurer amèrement. Et c'est de cela qu'elle est en train de parler directement pour dire, pendant que les saints sont là, pourquoi? L'église est le sel de la terre. C'est parce que l'église est là que jusque-là, les puissants des ténèbres n'ont pas encore la coudée franche pour manifester toute l'ardeur de leur haine contre l'humanité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence pas à voir des choses pas très correctes. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, mais ça, ce n'est que le début. Quand l'Église va partir, pour ceux qui seront restés, moi, je ne serai pas resté tout de même, dans tous les cas, quand ça va se... ceux qui vont rester, ils verront toute l'ampleur de la méchanceté des puissants des ténèbres. Jusque-là, ça ne se manifeste pas. Des gens ont entendu parler des démons, ils ne l'ont jamais vu, mais en ce moment-là, ça deviendra manifeste pour plusieurs. Donc, là, elle est en train de dire que c'est le moment de pousser des cris, de crier à Dieu. Pourquoi? Parce que l'enlèvement va marquer un tournant décisif dans le déroulé de l'eschatologie, des événements des derniers temps. Parce qu'immédiatement après l'enlèvement, le fils de la perdition que la Bible appelle l'antichrist ou l'antéchrist va venir sur la scène mondiale. Actuellement, nous savons que le faux prophète est là, un chef religieux qui a un impact à l'échelle mondiale, qui est là en train de dire des choses contraires aux saintes écritures. Les gens le voient, mais personne n'arrive à parler. Pourquoi? Parce que c'est ici l'heure des ténèbres, de la puissance des ténèbres. D'accord? Quelqu'un qui normalement devait dire aux gens, répentez-vous, est en train de cautionner ce qui est contraire aux Saintes Écritures. Donc, cet individu va rassembler toutes les religions de la terre. Je crois que un grand pas est déjà fait dans ce domaine. Donc, toutes les religions de la terre seront sous la coupole de celui que la Bible appelle le faux prophète. L'Antichrist, lui, sera un responsable politique. Et qui va avoir aussi une influence à l'échelle mondiale. Donc les deux vont travailler ensemble sous l'impulsion des puissants des ténèbres à la tête desquels vous avez le Satan, et qui va bouleverser le monde. Et pendant 3 ans et demi, plus un autre 3 ans et demi, la terre n'aura jamais connu ce que la terre connaîtra en cette période. Donc ici, c'est un avertissement qu'il est en train de lancer. Quoi. Tu sais que l'enlèvement de l'Église était un mystère pour les saints de l'Ancien Testament. Eux, ils ne savaient rien du tout de cela. D'accord? Non, ce n'est qu'après, quand le Seigneur est parti, que les révélations commençaient pas à sortir, qu'on a compris maintenant, parce que l'Église était un mystère, l'Église va partir, quand l'Église partira, Israël maintenant va chercher à se tourner vers le Messie qu'il a rejeté jusqu'à maintenant. Donc, là, quand vous lisez les Écritures, c'est tout à fait normal, parce que là, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, l'apôtre Paul a révélé comment se fera l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas? Mais avant cela, il avait clairement dit, dans le même chapitre 4, le verset 2, vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur. Quels sont ces préceptes? C'est que ce que le Seigneur veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté. Verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, ne rejette pas une église, ne rejette pas une dénomination, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc ce n'est qu'après avoir parlé de l'importance de la sanctification qu'il parle maintenant de l'enlèvement. Parce que ce sont les saints qui seront enlevés, c'est pas les pécheurs, c'est pas les rétrogrades, c'est des gens qui ont été lavés par le sang de l'agneau, qui continuent à mener une vie qui honore Dieu, c'est eux qui seront enlevés. Donc ce que la dame est en train de dire, vous comprenez clairement qu'elle maîtrise les saintes écritures.
Très bien. Alors, et au-delà de ça, tu l'as dit tantôt, elle lance un avertissement, parce que la dernière partie de la première partie de la chanson, elle a dit là-bas, après l'enlèvement, il n'y aura plus de miséricorde. Est-ce que ce n'est pas de la compassion même qu'elle manifeste à l'égard?
Bien sûr. Pourquoi? Tu sais, dans l'Ancien Testament, Dieu, à plusieurs reprises, par les prophètes, a appelé son peuple à la repentance. Quand on parle de repentance, c'est pas juste le fait de faire une phrase, le verbe pécher, j'ai péché, et puis on dit ça légèrement, et puis on se contente que croyant que parce que je l'ai dit, Dieu m'a pardonné. Non, Dieu regarde le cœur. Si tu n'es pas sérieux, il sait, il t'écoutera même pas, parce qu'il sait que tu n'es pas sérieux. Tu vois, dans Joël chapitre 2, à partir du verset 12, il a dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent la colère, riche en bonté, il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait? Verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Tu vois, c'est ici, c'est le lieu de dire, quand on parle de repentance là, c'est quelque chose de vraiment sérieux.
Ça prend du temps.
Oh, mais c'est vraiment sérieux. C'est-à-dire que ça dépend de l'état de la personne, elle me dit, de tout votre cœur. Tu sais, dans l'Ancien Testament, quand un juif est scandalisé, il déchire leurs vêtements. Dieu dit le temps là, il faut laisser les activités religieuses. C'est le moment maintenant de déchirer vos cœurs. C'est le moment de voir l'ampleur du mal que vous avez fait et de revenir. Donc, la question de la miséricorde, d'implorer la miséricorde de Dieu est fondamentale. Pourquoi ? L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 11, à partir du verset 25, nous a fait comprendre, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera Jacob, détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, à cause d'Abraham. D'accord? Donc, actuellement, Israël est dans l'endurcissement, parce qu'il ne croit pas au Messie. Et c'est une opportunité qui est offerte à ceux que la Bible appelle les païens, nous autres qui ne sommes pas naturellement des Israélites ou des Israéliens, d'accord? Donc c'est une grâce qui nous est faite, mais cette porte de la grâce est en train de se fermer actuellement. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que l'iniquité prend de l'ampleur actuellement, et les nations au jour le jour manifestent leur ingratitude à l'endroit de Dieu, en rejetant la parole de Dieu, en faisant ce qui est contraire à la parole de Dieu. L'Europe qui a été l'une des premières nations, le premier continent à reçu l'évangile, l'a rejeté aujourd'hui. C'est pour cela que vous allez entendre parler d'homosexualité, de tout ce désordre là qu'on a actuellement. Donc les pays qui ont été autrefois éclairés aujourd'hui retourne dans les ténèbres. Et la porte est en train de se fermer graduellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de repentance. On ne prêche plus sur le ciel. On ne prêche plus sur l'enlèvement. On ne prêche plus sur l'enfer. On ne prêche plus sur une vie digne de la repentance. On n'en parle plus. Et tout cela, c'est l'accomplissement des prophéties. Donc, ici, elle est en train de dire, après l'enlèvement, Dieu se tournera vers Israël. D'accord? Et ceux qui seront restés vont essayer, maintenant par eux-mêmes, vont choisir de dire, si je prends ce signe de la bête, là j'aurai une satisfaction momentanée pendant les 3 ans et demi et plus, mais après ce sera l'éternité, loin de la face de Dieu. Et donc ces gens-là vont accepter mourir pour Christ. Parce que Christ est mort pour eux et ils n'ont pas estimé à sa juste valeur son sacrifice à la croix. Le temps viendra où ces gens-là seront obligés soit d'accepter la marque de la bête et d'être damnés pour l'éternité, ou d'accepter de mourir pour Christ pour avoir la vie éternelle. C'est à cela qu'elle est en train de faire allusion à ce niveau de la chanson. The cry, you will cry.
Nous allons dès à présent aborder la deuxième partie de la chanson, comme je l'ai dit tantôt. Nous l'avons subdivisée en six parties, en six sous-parties, vais-je m'exprimer ainsi. Et la deuxième sous-partie de ce cantique-là, voilà, elle dit ceci. C'est le moment de demander la miséricorde de Dieu pendant que les saints sont encore là. La miséricorde ne sera plus disponible quand les saints seront enlevés. La grâce ne sera plus disponible après l'enlèvement des saints. La miséricorde et la grâce ne seront plus disponibles après le départ des saints. Mais j'ai l'impression qu'elle tourne en rond, mais met l'accent sur elle véhicule un message. Hein.
Bien sûr.
J'ai l'impression. La miséricorde au début, et la miséricorde et la grâce qui interviennent, il y a quelque chose qui va se produire à l'enlèvement.
Oui.
La miséricorde ne sera plus de mise
oui.
Après l'enlèvement. Mm-hmm. Ça sera difficile de se repentir. Tu l'as dit tantôt.
Oui, oui.
Parce que quoi?
Oui.
Dieu va se tourner vers Israël.
Israël.
Il va s'occuper maintenant d'Israël.
D'Israël. Mm-hmm.
Voilà.
Ouais. Donc là, à ce niveau, c'est important de comprendre cela, parce que L'apôtre Paul a touché cet aspect dans Romains chapitre 3, à partir du verset 28, quand il dit « Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Mmh. » C'est ce qui a été, son message a été un choc pour les Juifs, parce qu'ils s'appuyaient sur la loi. Et donc, quand le message de la foi, le message de la grâce leur est annoncé, plusieurs ont été choqués, même les apôtres à Jérusalem. Hein, c'est en cela qu'ils ont poussé Paul à faire une erreur grave en lui disant, écoute, il faut que les autres croient que toi aussi tu es observateur de la loi. Et il les a suivis et c'est ce qui lui a valu d'être arrêté. Vous connaissez la suite si vous lisez le livre des Actes des Apôtres. Donc ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que l'homme est justifié par la foi. La foi c'est quoi? Vous écoutez le message de l'évangile, vous croyez que Jésus est mort pour vous, vous mettez votre foi en cette œuvre qu'il a accomplie à la croix et Dieu vous impute la justice de Christ. Et ça, aujourd'hui, on n'en parle pas. Il y a même une église sur la terre qui enseigne aux gens les œuvres, le salut par les œuvres. Non, on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est par la foi. Mais maintenant, quand tu es sauvé, tu fais maintenant les œuvres qui montrent que ta vie a été transformée. C'est pour cela que les gens s'activent dans les choses, et plusieurs même dans les milieux fondamentalistes, pentecôtistes aussi, ça arrive. Hein. Les gens, quelqu'un tombe dans le péché, au lieu d'arrêter et de chercher Dieu, de chercher la miséricorde de Dieu, ils pensent que quand ils continuent à donner la dîme, quand ils continuent à donner des offrandes, ou ils continuent à aller à l'église, ou ils continuent à faire, je ne sais quoi, des activités de l'église, ce qu'ils faisaient avant, ils continuent à le faire, que Dieu sera impressionné par ces prouesses religieuses, et Dieu va dire, ok, il a péché contre moi, mais comme moi, il est actif, bon, ferme les yeux sur ça, accorde-lui le pardon. Non, dans l'économie du Nouveau Testament, le seul moyen par lequel Dieu nous accorde le pardon, c'est la repentance. C'est quand on se répand que Dieu nous pardonne. Si on refuse de se repentir, il n'y a pas de pardon. Et quand vous thésaurisez un péché, vous laissez le péché, vous pensez que oui, le temps a passé, Dieu aurait oublié. Non, le péché est constamment devant Dieu et devant votre conscience. Donc, les choses ne se passent de cette façon. C'est pour cela que l'apôtre Paul explique. Quand David, vous savez qu'il était tombé dans un péché grave et que quand Dieu l'avait restauré, dans Romains chapitre 3, le chapitre 3, verset 2. Maintenant, je vais lire le verset 6. De même, David exprime le bonheur à l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. La justice sans les œuvres. Au moment de la repentance, là, de la conversion, ce n'est pas votre œuvre qui entre en jeu. Non, c'est la foi. Maintenant, quand vous êtes converti, votre vie maintenant sera marquée par des œuvres. Et c'est ce que le prophète Jean, que nous connaissons sous le nom de Jean-Baptiste, dit, le fruit digne de la repentance. On doit pouvoir voir maintenant une vie transformée. Donc là, il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Et dont les péchés sont couverts. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, le péché était couvert. Mais sous la Nouvelle Alliance, le péché est ôté. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Vous pouvez, donc, et là, quand on comprend l'importance de la repentance, de la sincérité dans la repentance, Osée chapitre 14, hein, verset 1, il dit, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Ouais, c'est ça un vrai prophète. Parce que l'esprit de Christ, l'esprit de sainteté, ne va pas cautionner le péché. Donc si l'esprit de Dieu est sur vous, cet esprit vous poussera à dire au pécheur, répands-toi. À dire au rétrograde, reviens au Seigneur. Mais si l'esprit est ce qui est sur vous, ne fait pas ça là, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et lorsque vous acceptez ce que l'esprit fait, c'est ce qui nous pousse à la repentance. Ici, il dit, apportez avec vous des paroles. Ici, Dieu est en train de parler au peuple d'Israël. Et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Tu vois, il leur enseigne même comment aller demander pardon. Le peuple de Dieu était tellement tombé que le prophète a dû leur enseigner comment demander pardon. C'est ce que nous faisons parfois quand nous prêchons à quelqu'un, nous voulons l'aider quand on le conduit à Christ là, c'est ce qu'on fait souvent. Puisqu'il s'y connaît pas, donc on essaie de l'aider. Donc ici, c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est sur cela que l'auteur est en train de mettre l'accent. La miséricorde et la grâce en ce moment-là. Parce que Dieu maintenant va se tourner vers Israël pour être favorable à Israël. N'oubliez pas,
qu'au fin fond de la grande tribulation, il répandra sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication. C'est en ce moment que leur repentance là, ce sera une repentance nationale. C'est pour cela que dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, il dit tout Israël sera sauvé. Parce que sans l'influence de l'esprit de Dieu, il vous est difficile, il vous sera difficile même de prendre conscience de votre état. L'homme sans Christ, l'homme sans la présence de l'Esprit ne sait pas qu'il est un pécheur. C'est quand l'Esprit agit que nous nous reconnaissons pécheurs. Et quand on est né de nouveau et que l'Esprit de Dieu réside en nous, nous ne prenons pas plaisir au péché. C'est pourquoi nous cherchons à vivre dans la sainteté pour que notre vie puisse honorer le Seigneur.
Suivez bien l'émission Études sur Cantique. Nous allons maintenant aborder la troisième sous-partie de cette chanson. Et c'est juste une suite logique de ce qui est dit auparavant. Maintenant, c'est la repentance qui est en question, l'autre Laurent. Et elle dit dans le chant au Sinachi Nwachukwu, dit dans le chant, la repentance est encore possible pendant que les saints sont encore dans le monde. Oui, la repentance est encore possible pendant que les saints sont encore là. Elle est encore possible pendant que les saints sont encore dans le monde. Ça veut dire la présence des saints favorise beaucoup de choses.
Bien sûr, c'est ce que j'ai dit.
Ils sont le sel de la terre.
Oui, c'est le sel de la terre. Maintenant, lorsque l'Église compromet, vous savez que le sel a la vertu de conservation. Hein, quand on ne veut pas qu'une viande ou quoi que ce soit se détériore, on met le sel dessus, n'est-ce pas? La salaison. C'est ce que nos grands-parents, nos mamans pratiquaient. Hein? Et même lorsque vous avez une plaie vive, quand vous mettez le sel dedans, ça purifie aussi. Hein? Ça, c'est soit dit en passant. Donc, la repentance est fondamentale. Et c'est la présence de l'Église qui constitue une sorte de digue et qui empêche que le déferlement de l'iniquité, de l'impiété puisse envahir la société tout entière. Partout où l'Église est présente et joue son rôle, vous allez voir que l'iniquité n'a pas toute sa force. Mais partout où l'Église elle se tait, elle ne joue pas son rôle, l'iniquité s'impose à tout le monde. Alors, donc là, Jésus n'a pas dit vous êtes le sucre de la terre, parce que quand l'Église compromet, elle devient le sucre de la terre. L'Église veut être bien vue par le monde. Et là, en ce moment, le monde impose à l'Église comment marcher. Et beaucoup d'Églises sont tombées dans ça. À un moment donné, on a voulu être bien vu par le monde. Bien, nous sommes bien vus aujourd'hui. Et oui, qu'est-ce que nous sommes devenus? Et quand vous êtes bien vu, vous ne serez plus respecté. Et si vous n'êtes plus respecté, vous perdez votre force de frappe, qui est la puissance de l'Esprit de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu. Donc ici, là je prends l'apôtre Paul, hein, qui nous explique dans 2 Corinthiens chapitre 7, hein, je vais lire le verset 10, qui dit « La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. » Frère, l'Écriture est notre référence. Quand on parle de la conversion, de la transformation de vie, Paul est en train de dire, quand quelqu'un est réellement converti, hein, la personne ne retournera plus gaillardement dans ce péché-là. Pourquoi? Vous vous souvenez de l'histoire de David, non? Oui. Dans Psaume 15, verset 1, David a demandé à Dieu, « Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» C'est le roi David, hein, qui a posé cette question. Et Dieu lui a répondu, « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent et n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » C'est la réponse que Dieu lui a donnée. Ça, c'est dans le psaume 15. Psaume 24, il pose la même question, mais cette fois-ci sous une autre forme. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel?
qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. C'est comme, c'est la question maintenant qui est lancée à qui est en train d'écouter le psaume. Mmh. Et maintenant, quelle est la réponse? Il dit, mais celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, la sainteté revient toujours. Et donc, il dit qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Ça, on le sait, n'est-ce pas? Mais le jour où David a péché contre Dieu, le roi d'Israël, le chant agréable d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu. Quand il a péché contre Dieu, il a passé un long moment à vivre comme ça dans cet état parce qu'il ne voulait pas se repentir. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Psaume 32, le verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et là, il a mis pause. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Tu vois? Donc, il était dans cet état-là. Et ce psaume va compléter ce qui est dit dans le psaume 51. Parce que le prophète Nathan est venu. Il a reçu la révélation de ce que David a fait. Et il est venu proposer une parabole à David. Et David, dans sa posture de propre, il était imbu de lui-même, hein, la propre justice. Ah non, celui qui a fait ça est digne de moi. Dit, ok, c'est toi. Pourquoi? Parce que Uri avait sa femme. Toi aussi, tu as ta femme et tes femmes. Mais tu as pris sa femme, ça c'est un. Deuxièmement, tu l'as fait tuer. Et là, quand le prophète a parlé, David dit, ah, j'ai péché. Parce que Dieu révèle toujours notre état. Il ne cautionne pas le péché. 2 Samuel 12, verset 7, il dit, Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel. Quand un prophète te dit ainsi parle l'Éternel, là il faut savoir que ce qu'il va dire ne vient pas de lui. Il dit, le Dieu d'Israël, je t'ai oint. Frère, l'onction est différente de la vie que tu mènes. L'onction là, c'est pour le service. La sainteté, c'est la vie que tu mènes. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Tu t'es délivré de la main de Saül. Verset 9. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Quelle parole? Exode chapitre 20. Il a dit quoi? Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Il a dit quoi? Tu ne tueras point. Et David, il a fait tout ça là. Et il dit, en faisant ce qui est mal à mes yeux, tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Verset 10, c'est maintenant. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Tu vois, tu as méprisé ma parole, tu m'as méprisé. Dieu là, il est égal à sa parole. Ce que tu fais contre la parole, c'est contre lui que tu fais. Si tu te ligues contre Jésus, tu te ligues contre le Père. Ça c'est très simple à comprendre. Si tu rejettes les saintes écritures, tu ne vis pas dans l'illusion que l'esprit est toujours là. Et donc là, nous comprenons, quand vous lisez psaume 51 maintenant, vous allez voir la repentance de ce monsieur. Et quand il s'est repenti, nulle part dans les Écritures, on entendra dire plus tard que David est encore tombé dans l'adultère. Au point que dans sa vieillesse, quand on lui a trouvé une jeune fille, parce que étant vieux, tout ça, on a trouvé une jeune fille pour venir chauffer son lit, elle a refusé. Ça là, c'est mariage officiel. Il dit non, pas question. Avec ce qui m'est arrivé dans l'histoire de Uri là, non, moi je pas. Ça, c'est la repentance. Ça. Quand la personne vous dit, j'étais alcoolique, j'étais ivrogne, j'ai écouté le message de l'évangile et je me suis repenti. Et la même personne vous dit, sinon mais le soir quand j'ai un temps libre, je vais m'asseoir dans les bars pour observer comment les gens vivent dans l'ivrognerie. C'est pas il n'est pas converti. Parce que s'il est converti, il va craindre ce lieu-là. Il va craindre la boisson. Vous voyez un peu, donc, quand les gens aujourd'hui veulent nous faire croire le contraire de ce que disent les Écritures, ah, en moi, là, il n'y aura aucune place pour ces gens de dire oui, mais on peut accepter, on n'accepte pas. L'Écriture dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, l'auteur est en train de dire ici, la repentance, là, la véritable repentance, c'est maintenant. Parce que si vous ratez d'être sérieux avec Dieu maintenant, quand la trompette va sonner, oh, ceux qui s'amusent avec Dieu, oh, c'est le jour-là où les gens, vous verrez, bon, on ne sera pas là pour voir ça, mais les gens vont prier le jour-là, sérieusement. Donc, faut pas jouer avec ton salut. C'est important.
D'accord. L'autre Laurent, on continue dans cette émission, la quatrième partie de la chanson. C'est le moment de servir Dieu en esprit et en vérité. Après la repentance maintenant, voilà ce qui vient. C'est le moment de servir Dieu en esprit et en vérité. Sois conscient de l'éternité, ne vis pas ta vie n'importe comment. Le ciel est réel, l'enfer également est réel. Venez à Jésus aujourd'hui. Être fini toujours par un appel à la repentance.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Tu vois, quand elle parle de le moment de servir Dieu en esprit et en vérité, c'est vrai que quand le verset des Écritures que nous connaissons, c'est quoi? Jean chapitre 4 où il dit, 24. Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est comme si l'adoration est en esprit, le service est dans la chair. Non, c'est pas comme ça. Le pasteur, le prophète, le bishop, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, l'enseignant de la parole de Dieu, les cinq ministères et tous ceux qui interviennent dans le royaume doivent le faire sur la base de l'inspiration de l'esprit. D'accord? Le pasteur là, il ne se lève pas un matin comme ça, il se gratte la tête et il monte au pupitre pour aller prêcher. Non, il reçoit de Dieu ce que Dieu veut dire à son peuple. Et il est le porte-parole. Le prophète là, il ne va pas user de la psychologie pour voir, bon, qu'est-ce qui se passe et pour venir mentir qu'il a prophétisé. Non, l'apôtre là, il va pas se mêler des choses qu'il ne maîtrise pas, surtout, aujourd'hui, des apôtres qui se mêlent de la politique, qui ne maîtrisent même pas le sujet, et venir dire qu'ils sont apôtres. Non, tout le monde doit être contrôlé par l'esprit. Donc, autant l'adoration est en esprit en vérité, le service aussi est en esprit en vérité, parce que ce qui relève de la chair n'honore pas Dieu, et il ne va pas l'accepter, et il va le rejeter. Matthieu 7, verset 21, là, vous connaissez le passage là. On a fait ceci en ton nom, dans la chair, on a prophétisé en ton nom, dans la chair, on a chassé les démons en ton nom, dans la chair, on a fait ceci. Et il va dire non là, dans mon royaume, c'est l'esprit qui est le catalyseur, l'initiateur, et celui même qui vous pousse à faire ce que je veux. Non pas ce que nous faisons dans la chair. Donc c'est tout à fait normal que nous comprenions ça. Pourquoi? Romains chapitre 6, verset 22, et c'est clair. Maintenant, étant affranchis du péché, tous les saints sont ceux qui ont été affranchis du péché. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maintenant, affranchis du péché, et devenu esclave de Dieu, et devenu serviteur de Dieu, et devenu servante de Dieu, vous avez pour fruit, le fruit de notre vie, la sainteté, et vous avez pour fin la vie éternelle. C'est comme cela que nous sommes, ceux qui sont réellement convertis. Notre vie là, elle est marquée par la sainteté, et c'est ce qui fait que on a la garantie que quand on va quitter ce monde là, on ira à la maison. Mais si quelqu'un joue avec le péché, quand il entend prêcher sur la repentance, sur l'enlèvement, il a peur. Quand il entend prêcher sur la mort, il a peur. Mais l'enfant de Dieu, la fille de Dieu, le fils de Dieu, qui est lavé par le sang de l'agneau, qui a la conviction d'être enfant de Dieu, parce que l'esprit a rendu témoignage à son esprit qu'il est enfant de Dieu, quand il entend parler de l'enlèvement, il dit, oh, enfin, on va bientôt rentrer à la maison. Mais dans le cas contraire, il va avoir peur. Pourquoi? Parce que notre vie détermine réellement qui est en nous, et qui agit en nous, et qui se sert de nous. C'est important de le savoir.
Très bien. Tomorrow may be too late. Oh, he's knocking on the door of your heart. Listening, he's waiting for you. Remember, he will not wait forever. He's available no more. Listening, he's waiting for you. La cinquième partie de la chanson nous dit ceci. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Demain pourrait être trop tard. Il frappe à la porte de ton cœur. Laisse-le entrer, il t'attend. Rappelez-vous, il n'attendra pas éternellement. Il est disponible maintenant. Alors, à ce niveau, ça me rappelle deux versets. Ésaïe 55, verset 6. Et je crois Apocalypse chapitre 3 verset 20, si je ne me trompe pas.
Oui, bien sûr, Ésaïe 55 verset 6 dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et là, ce verset, pour mieux le comprendre, il y a le verset 7 qui dit, que le méchant abandonne sa voie. Tu vois, l'Esprit de Dieu appellera toujours le méchant à la repentance. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est notre rôle là. C'est à nous de dire à ceux qui ne connaissent pas Dieu, venez à Jésus. Ne leur parlez pas de bénédiction. Faut pas dire à quelqu'un, si tu viens à Jésus et tu n'as pas d'enfant, tu auras un enfant. C'est pas ça l'évangile. Il faut lui parler de la repentance. Quand la personne entre par cette porte dans le royaume maintenant, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, le reste lui sera donné. Jésus a commencé par repentez-vous. Jean-Baptiste a dit repentez-vous. Les apôtres à la Pentecôte disent repentez-vous. Pourquoi nous voulons changer? Pourquoi on veut? Bon, ok, écoutez-moi. Les opérateurs de téléphonie mobile là, ils disent parfois, écoutez, on fait des promotions, n'est-ce pas? Si tu achètes un crédit de 1000 francs, tu as un bonus de 1000 francs par exemple. Et tu prends ton téléphone, tu appelles pour dire, écoutez, bonjour, oui, c'est moi, j'ai appelé, je vais prendre le bonus. On dit, ok, d'accord, et il faut payer le crédit. Il dit, non, moi je ne m'intéresse pas au crédit, moi je veux prendre le bonus. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous dites à la vous parlez de bénédiction à la personne, vous ne lui parlez pas de repentance. Dieu lui met l'accent sur la repentance, vous lui parlez de, tu vas avoir maison, camion, voiture. Ces choses-là, c'est le contraire là qu'on est en train de faire. Parlons-leur de la repentance. Quand ils seront nés de nouveau, le reste là, le bonus là leur sera donné. Donc si vous allez voir ces maisons de téléphonie là, ils vont jamais vous donner le bonus aussi longtemps que vous n'avez pas acheté le crédit. Donc, repentez-vous. Une fois que vous êtes repenti, tout ce dont vous avez besoin, Dieu vous l'accorde. Dieu là, il va pas contredire sa parole. Donc ici, comme tu l'as dit, Ésaïe 55, oui, deuxième,
Apocalypse,
oui, Apocalypse, oui. C'est deux passages. Le premier passage, c'est un appel que Dieu lance à Israël, le peuple de Dieu. Tu vois un peu?
Ouais, ouais.
Et sous la nouvelle alliance, Apocalypse 3, verset 20, c'est un appel que Dieu lance à l'église rétrograde.
C'est ok.
Tu vois que dans les deux cas, Dieu a raison de mettre l'accent sur notre état, notre situation. Oui, maintenant, quand on applique ce verset, on peut l'appliquer aussi à des gens qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils se répandent. Donc, c'est important. Quand on suit, on sait que l'auteur de la chanson...
De la sainte doctrine.
Oui, elle connaît la parole de Dieu.
Elle connaît la parole de Dieu. Très bien. Voilà, on va finir avec la dernière partie, là, rapidement. Et là, la dernière partie dit ceci. Il y a une glorieuse cité au ciel. Là où vivent les saints, brille comme une lumière. Écoutez la douce mélodie qu'ils chantent à l'honneur de Jésus. Ils lui chantent des louanges au siècle des siècles. Il y a une glorieuse cité au ciel, là où il n'y a ni mort ni chagrin, là où il n'y a ni pleurs ni larmes. Les saints célèbrent son saint. Elle a décrit le ciel de façon, de façon partielle. Bon, le ciel, c'est la cité qui nous attend. En tant qu'enfant de Dieu.
Oui, bien sûr.
Les saints de Dieu.
Oui, les saints de Dieu. Oui, la révélation, vous savez, la révélation est normale pour quiconque est né de l'esprit. C'est tout à fait normal d'avoir des visions, d'avoir des songes, d'avoir des révélations. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Frères et sœurs, nous tous là, on a fait 9 mois dans le sein de notre mère. On est venu dans ce monde. Et Dieu nous a donné les yeux physiques et nous voyons là où nous habitons. Tu habites quel pays? Tu habites quelle ville? Tu vois la ville, non? Tu vois la ville, le pays, l'endroit où tu es, à cause des 5 sens que tu utilises. N'est-ce pas? Quand quelqu'un est né de l'esprit, il voit le royaume de Dieu. Parce qu'il est un habitant du royaume. Il n'y a pas d'aveugle dans le royaume, sur le plan spirituel, là. Les enfants de Dieu, là. Ils voient le royaume. Donc, c'est tout à fait normal de comprendre ça. Dieu, quoi? Quelqu'un dit qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit et il ne voit rien. Et il n'entend rien du tout. Rien. Il lit la Bible, il comprend rien. Là, on va vérifier ce Saint-Esprit-là. Parce que le véritable Saint-Esprit, quand il vient, il donne des visions, il donne des songes, il te fait parler de façon inspirée. C'est ce qu'on appelle, ils prophétiseront. Ce n'est pas parce que tu as conjugué le verbe prophétiser, comme les gens font aujourd'hui. Je prophétise sur toi, non? Tu n'as rien fait, tu n'as fait que conjuguer le verbe prophétiser. D'accord? Mais il est dit, quand le Saint-Esprit viendra, ils prophétiseront. Ça veut dire que les paroles qui sortiront de nos bouches seront des paroles inspirées. Donc elle est en train de nous parler du ciel et elle parle de l'adoration au ciel. Elle parle de la disparition de la mort, du chagrin, des larmes, des pleurs, tout cela. Parce que ces choses-là sont de ce monde. Ce qui est de ce monde ne peut entrer dans le royaume. Voilà pourquoi les pleurs, les grincements, ils ne seront pas dans le royaume. Mais c'est la gloire, c'est la joie, c'est la félicité éternelle. Donc, l'auteur de la chanson a lancé un appel et nous ne pouvons que réitérer ce que l'auteur a dit. Il faut prendre sa vie chrétienne au sérieux. Dieu n'est pas un homme, pour qu'on puisse se jouer de lui. Il nous connaît mieux que nous. Mieux vaut
se repentir quoi, à l'excès, que de ne pas le faire. La Bible dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Ça, c'est la sagesse, ça. Il ne me coûte rien. Moi, tout le temps, là, je viens, Seigneur, regarde ma vie. S'il y a quelque chose là, dis-moi. Si tu me dis, je vais me repentir. Si j'ai dit quelque chose, si j'ai fait quelque chose, si j'ai touché quelque chose, dis-moi. Il faut cultiver cette attitude-là pour ne pas être surpris. Parce que Dieu n'a donné à personne le calendrier de l'enlèvement. Où vous dites, oui, ce sera à telle heure, à telle... Non. À tout moment, nous savons que le Seigneur va revenir. Et c'est ce que l'auteur est en train de dire. Faut pas être laissé derrière et un jour te souvenir de cette chanson où tu seras en train de crier maintenant à Dieu pour dire Dieu enlève-moi alors que les gens sont déjà partis. Moi là, je veux aller au ciel. J'espère que telle est aussi ta décision.
Oui. Merci l'autre Laurent. Nous avons étudié le cri de Osinachi Nwachukwu. Oui, c'est vrai qu'elle est décédée. Mais le message qui a été véhiculé est clair. L'autre Laurent vient de le dire. Cherchons à aller au ciel parce que si nous ratons le ciel, ça sera terrible pour nous. Et que Dieu vous bénisse maintenant à l'écoute de cette station. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine. Si le Seigneur tardait à revenir, on sera encore présent dans ce studio pour l'étude d'un cantique. Et on vous laisse avec le chant des Krai de Osinachi Nwachukwu. Yeah.